France Inter, franceinter.com.
Bonjour à tous, aujourd'hui une princesse autrichienne devenue impératrice des Français, la deuxième femme de Napoléon, Marie-Louise. Les princesses sont des marchandises politiques. Napoléon. Ans d'histoire. À quoi pouvait bien penser Marie-Louise de Habsbourg lorsque le 13 mars 1810, dans la cour du palais de la Hofburg, elle montait dans le carrosse qui devait la conduire vers un homme et dans un pays que toute son éducation lui avait appris à détester. Fille de l'empereur d'Autriche, elle partait en France pour y épouser celui qui allait faire d'elle une impératrice et la mère de l'enfant qu'attendait Napoléon pour assurer sa succession. « J'ai épousé un ventre », avait-il dit un jour, après son mariage avec Marie-Louise. Mais il avait aussi besoin d'elle pour rétablir la paix après 18 ans de guerre entre l'Autriche et la France. Et c'est la raison pour laquelle, après la victoire de Wagram, il avait décidé d'épouser cette princesse autrichienne de 18 ans, devenue plus importante à ses yeux que sa première femme.
« Wagram est une victoire. J'ai failli tout perdre à Essling. » La guerre peut reprendre à l'Est demain. Et qu'arrivera-t-il avec la moitié de mon armée bloquée en Espagne? J'ai besoin d'une longue période de paix à l'Est. Et la seule chance d'avoir cette paix, c'est un contrat de mariage entre la France et l'Autriche.
Tu veux dire entre toi et l'archiduchesse Marie-Louise? Elle est jeune, elle. Elle n'aura aucun mal à te donner cet enfant dont tu rêves. Un héritier, enfin. Mais tout de même, comme tu as changé. Après avoir tout fait pour détruire les monarchies d'Europe. Voilà que tu vas coucher avec une couronne.
Il ne s'agit pas de coucherie, Joséphine. Mais de la raison d'État.
Geneviève Chastenay, bonjour.
Bonjour.
Alors la raison d'État, c'est évidemment ce qui explique le divorce de Napoléon et Joséphine et le deuxième mariage de Napoléon avec cette femme à laquelle d'ailleurs les historiens ont accordé peu d'importance, considérant peut-être qu'après tout elle n'a fait que de la figuration dans l'histoire du Premier Empire. Marie-Louise, à laquelle vous avez consacré une biographie qui vient d'être rééditée chez Perrin et intitulée Marie-Louise, l'otage de Napoléon. Pourquoi l'otage ?
Parce que son père, François II, et son ministre Metternich voulaient avoir la paix et que l'Autriche ne soit pas perpétuellement déchirée. Alors ils lui ont donné Marie-Louise en otage. Et elle a été élevée dans la haine de Napoléon. Et donc elle n'était absolument pas préparée à ce mariage.
Pour Napoléon, il faut rappeler, c'est vrai, il a dit... Alors, il avait dit, en parlant des princesses, on a entendu, ce sont des marchandises politiques. C'était déjà le cas, d'ailleurs, sous l'Ancien Régime. Mais pour lui, c'était évidemment... Il y avait la paix, aussi, avec l'Autriche. Il y avait également la volonté d'avoir un héritier que Joséphine ne lui avait pas donné.
Oui. Et donc, l'héritier est arrivé un an plus tard. Mais ça n'a pas apaisé, pour autant, les soifs de conquête de Napoléon.
Alors, vous avez dit... effectivement que Marie-Louise, et c'est ça qui peut paraître assez extraordinaire, était un gage de paix entre l'Autriche et la France, parce que les deux pays étaient en guerre depuis 1792, c'est-à-dire à un an près la date de naissance de Marie-Louise, qui a vécu toute sa jeunesse en état de guerre, si je puis dire, quand son pays était en état de guerre contre la France, et du même coup a été vraiment éduquée dans la détestation de la Révolution française. Il faut dire quand même que la Révolution française, c'est elle qui avait tué sa grand-tante, qui était tout simplement Marie-Antoinette.
Oui, exactement. Mais alors aussi, ce qui s'est passé dans un des motifs de cette haine, c'est les deux exodes en Hongrie. C'était 1200 kilomètres chaque fois. Ça faisait 48 000 kilomètres parce qu'il y a eu deux exodes, dans des conditions épouvantables, des lits avec des punaises, c'était de la bise glaciale.
Ça, c'est quand Napoléon avait occupé Vienne.
Et alors, elle a ressenti ça très, très fort. Et pour elle, c'était vraiment vraiment Krampus, le diable,
l'ogre.
Et rien ne pouvait imaginer qu'elle puisse l'aimer.
Alors, il y a aussi d'autres raisons. C'est tout simplement que l'Empire d'Autriche, qui s'appelait d'ailleurs avant la Révolution française, qui s'appelait le Saint-Empire romain germanique, dont son père, dont le père de Marie-Louise, François II, était empereur de Germanie, et puis en perdant petit à petit au profit de la France des tas de territoires, ça devient l'Empire d'Autriche, il devient François Ier, empereur d'Autriche, et puis d'un pays qui a vraiment été amputé au fil du temps et des conquêtes françaises par la France. On peut concevoir qu'elle ne l'aime pas beaucoup. Il y a une anecdote assez curieuse. Je crois qu'elle jouait souvent avec son frère, qui deviendra lui-même empereur, Ferdinand. Et Marie-Louise jouait avec son frère. Et puis, alors, quand il y avait une figurine de Napoléon entre les mains, il jouait au petit soldat. Et il lardait d'épingle, de coups d'épingle.
Oui, c'était des jeux quotidiens.
Enfin, bref, rien ne l'a prédestiné à se marier avec Napoléon. Mais comment, dans ces conditions, est-ce que le père de Marie-Louise, François II ou François Ier, enfin François d'Autriche, l'empereur, a-t-il abandonné sa fille à Napoléon ?
Il n'avait pas beaucoup le choix. D'abord, il était très influencé par Metternich. Et en fait, il a vendu sa fille pour avoir la paix.
Parce qu'il y avait un attachement considérable.
Il y avait un attachement considérable parce que d'abord la mère de Marie-Louise était une banquise, elle était très froide. Elle disait « si jamais ma mère vous pouvez m'embrasser, cela me ferait plaisir, jamais un baiser ». Il faut dire qu'elle avait eu 13 enfants, elle n'avait peut-être pas beaucoup le temps de les embrasser. Et donc, elle élevait donc dans la haine. Et puis tous les émigrés qui avaient à Vienne aussi. Mmh. Elle voyait la guillotine sur les boulevards de Vienne, les hosties que les soldats français marchaient dessus. Enfin, que des choses absolument monstrueuses.
Alors quand son père, au fond, elle se sacrifie, quand son père et Metternich lui disent « tu vas épouser Napoléon », c'est un peu le sacrifice d'Iphigénie.
Oui, je vais me sacrifier pour le bonheur de l'État. Voilà ce qu'elle dit, ce qui est quand même très noble.
Elle épouse donc Napoléon, alors donc l'empereur propose sa fille. Je crois que Napoléon avait hésité d'ailleurs entre la fille de l'empereur de Russie et la fille de l'empereur d'Autriche. Finalement, c'est Marie-Louise qu'il choisit sans la connaître. Ils se marient en l'absence les uns des autres, puisque comme le veut la tradition, il y a d'abord un mariage par procuration à Vienne, le 11 mars 1810, avant donc que Marie-Louise vienne rejoindre en France son mari, qu'elle voyait pour la première fois le 27 mars 1810 à Courcelles-sur-Vesle, près de Soissons. Napoléon, qui d'ailleurs en la voyant, est tellement pressé de consommer le mariage qu'il annule une réception qui avait été prévue le soir même.
En accord avec le protocole, Votre Majesté et Son Altesse l'Archiduchesse doivent honorer de leur présence un banquet.
Annulé, à Compiègne tout de suite.
Oui, si, bien sûr.
Je tiens à avertir Votre Majesté, c'est non.
Non ? Comment ça, non ?
Non, pas avant d'être votre femme.
Et vous êtes ma femme, je vous ai épousée par procuration.
Notre mariage n'a pas de valeur pour moi tant qu'il n'a pas été béni par Dieu.
À la cour ?
Oui, sire.
Il faut un homme de Dieu.
Un homme de Dieu ? Sire, vous ? Et pourquoi faire ?
Vous pouvez me trouver ça, oui ou non ?
Eh bien oui, bien sûr, oui, oui. Moi, justement, je viens de croiser un vieux cardinal, à l'instant.
Un cardinal, ça va adorer ça. On nous envoie un cardinal.
Oui, j'ai entendu. Dans ce cas, patientons jusqu'à l'arrivée de son éminence.
Ich liebe dich.
Non.
Non.
Ich liebe dich.
Thank you.
et vous entendez une sonate de Ferdinando Paer, une sonate dédiée à Marie-Louise, Ferdinando Paer, qui était son professeur de musique à Vienne. Et on a entendu avant un extrait d'un téléfilm d'Yves Simoneau avec Christian Clavier dans le rôle d'un Napoléon, apparemment très pressé, dites-vous, Geneviève Chastenay, de consommer son mariage avec Marie-Louise, hein, au point d'annuler tout ce qui était prévu. Il y avait des fêtes, il n'est pas venu.
À la hussarde. Oui. Alors pour elle, c'était très nouveau, puisqu'elle était vierge. D'ailleurs, il s'est extasié de pouvoir montrer le sang sur les draps le matin. Enfin, c'est l'exaltation. Et c'est surtout, Marie-Louise était un extraordinaire aphrodisiaque. Parce qu'il est entré dans la plus illustre maison régnante, sur tous les plans.
Oui. Voilà. Mais elle était belle aussi.
Elle était très belle.
Selon les critères de l'époque.
Très pulpeuse, très grande, enfin, par rapport à Napoléon. Elle avait 1m67. Et il y a eu quand même 3 semaines extraordinaires de lune de miel où elle ne voulait pas être dérangée par la domesticité. Elle préparait le petit déjeuner peignait, faisait un portrait de Napoléon. Et ils partaient aussi ensemble, tous les deux, faire des courses à cheval. Et alors c'était
Mais c'est pas prévu, c'était le grand amour, hein, en fait. Cette espèce de mariage d'affaires, j'allais dire, de raison en tout cas, devient vraiment un mariage d'amour.
Mais... pour elle, c'était un Attila, et finalement, elle a écrit une lettre à ses parents. Eh bien, je crois que je commence à faire peur à Napoléon. Ça, je crois qu'elle se fait des illusions.
Ouais. Mais lui-même, d'ailleurs, vous le racontez, avant de voir sa femme, après tout, il ne l'avait jamais vue avant cette rencontre du 27 mars 1810, il s'était mis à prendre des leçons de maintien. Il avait renoncé aussi à la pratique de la prise du tabac, parce que ça noircit. Le nez, il a même appris la valse. Il était amoureux, hein, il est devenu amoureux de sa femme, alors que c'était pour lui simplement un ventre au départ.
Oui, il a été émerveillé parce que ça lui changeait de la rudesse de Laetitia, sa mère, et de Joséphine, qui était calculatrice, et en fait qui aimait l'empereur, mais qui n'aimait pas Napoléon. Surtout, elle avait un amant, Charles, dont elle faisait un grand usage.
Il était tellement d'ailleurs amoureux d'elle, il l'aimait tellement sincèrement que lorsque, un an après leur première rencontre, eh bien, Marie-Louise lui donne un enfant, l'enfant qu'il attendait justement, eh bien, il n'hésite pas parce que justement, lorsque le médecin de Napoléon lui annonce que la naissance sera difficile, c'était le 20 mars 1811.
Corvézard, il y a sûrement quelque chose à faire. C'est-à-dire, mes confrères et moi, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Je me vois maintenant obligé de demander à votre majesté qui nous devons choisir.
Choisir?
C'est la mère ou l'enfant?
Elle.
Ai-je bien compris, sire? Vous condamnez l'enfant?
Ma femme a le droit de vivre.
Certainement, sire, mais lorsque de douloureuses circonstances l'exigent, il est d'usage que les souverains...
Si l'impératrice perd cet enfant, elle en aura d'autres. Ça va aller.
Ordonnance. Le canon, monsieur. 101 coups de canon pour saluer la naissance de mon fils. À vos ordres, sire.
C'était donc la naissance du fils tant attendu de Napoléon, le roi de Rome, l'aiglon, dont le destin, on le sait, sera tragique, et qui a d'ailleurs failli très mal commencer. C'est vrai, je crois, effectivement, que l'accouchement se présentait tellement mal que ce qui est assez rare dans ces circonstances, quand il s'agit justement d'un empire, d'une couronne, eh bien, Napoléon a dit, tant pis, il faudra sacrifier l'enfant si la mère risque de mourir.
C'était plein de bon sens, parce qu'en effet, il pouvait lui en faire un autre.
Ouais. Voilà. Oui, mais en même temps, ça prouve bien l'attachement quand même qu'il avait pour
qu'il
elle.
Avait pour Marie-Louise.
Comment est-ce qu'elle était perçue à la cour impériale? D'abord, quand elle est arrivée, est-ce qu'elle a été bien accueillie en France, Geneviève Chastenay?
En tout cas, elle n'a pas été bien accueillie par la fille de Bonaparte parce qu'elle disait qu'elle n'est pas de notre sang. Sans Corse, exactement.
Et pourtant, elle est d'un sang quand même.
Et alors, elle est à la cour, comme Montebello, la comtesse de Montebello. très perverse, parce que son mari, le maréchal Lannes, était mort dans une guerre en Autriche. Elle en a beaucoup voulu à Napoléon. Elle s'est vengée sur Marie-Louise, en lui donnant toujours des explications fausses pour les présentations des dames qui venaient la voir. Et en revanche, pour les gens les plus modestes, elle a été très aimée. Parce qu'elle était, elle se sentait en confiance, parce qu'il y avait une espèce de gentillesse naturelle. Et quand elle se promenait sur dans le jardin des Tuileries, il y a beaucoup de personnes qui venaient et à qui elle parlait. Les dames de la cour étaient un peu bloquées. Les nouvelles, peut-être, et les anciennes de l'aristocratie trouvaient qu'on ne leur rendait pas assez d'hommage depuis qu'une archiduchesse était impératrice.
Donc populaire dans le peuple, parce qu'on aurait pu se dire au fond que étant la petite nièce de Marie-Antoinette, elle aurait reçu le même accueil. On sait que les Français détestaient l'Autrichienne, c'est-à-dire Marie-Antoinette, la femme de Louis XVI. Et là, ça n'a pas été le cas avec Marie-Louise.
Non, ça n'a pas été le cas parce que d'abord, Marie-Louise a été élevée à Vienne. D'une façon tout à fait bourgeoise, c'est-à-dire elle se promenait avec son père dans la rue, elle jouait avec les enfants des domestiques. Il y avait un émigré qui était très étonné, elle faisait un pas de deux avec le fils du cuisinier. Et donc, si vous voulez, il y a une espèce de c'est son côté naturel. Il n'y a pas d'espace mondain.
Enfin, mais en même temps, c'est quand même... Elle descend d'une des plus grandes familles, d'un des plus grands noms d'Europe. C'est une Habsbourg. On sait que pour les Habsbourg, comme d'ailleurs toutes les familles régnantes et tous les princes d'Europe, la cour impériale, la noblesse de Napoléon, c'était vraiment des parvenus. D'ailleurs, il y a tout un chapitre où vous parlez de Marie-Louise chez les parvenus, au fond. Oui. Est-ce qu'elle-même ne se moquait pas un peu de toute cette noblesse très récente qui était celle de Napoléon ?
Oui, elle s'en moquait parce qu'elle disait qu'il y avait quand même beaucoup trop de décorations et que c'était quand même un peu extravagant. Alors, elle s'en moquait avec Hortense, la femme d'Hortense de Beauharnais, donc la fille de Joséphine. Mais c'était très rare parce qu'elle était très intimidée aussi par les repas qui n'en finissaient pas, par les balles où il fallait être présente. Et elle trouvait tout était très martial et militaire. Alors c'était assez fatigant.
Une étiquette très, très rigoureuse, le rappelez, Geneviève Chastenay. Et puis une vie quand même, bon, qui est évidemment fastueuse. Mais il faut rappeler qu'elle a été impératrice pendant 4 ans à peine. Elle épouse Napoléon en 1810 et elle ne le verra plus après 1814. Pendant ces 4 ans, en fait, elle l'a très peu vu parce qu'il part constamment en guerre. Mmh. Ce sera le cas en 1812. Il part, évidemment, dans cette désastreuse campagne de Russie, après laquelle, d'ailleurs, son père, le père de Marie-Louise, l'empereur d'Autriche et Metternich, dont vous parliez, le ministre des Affaires étrangères d'Autriche, impose d'ailleurs de telles conditions de paix à Napoléon que la guerre va se déclencher entre la France et le pays d'origine de Marie-Louise.
Vous osez m'intimer l'ordre à moi de renoncer à mes conquêtes en Europe et de ramener la France aux frontières qui étaient les siennes avant moi ? Mais vous êtes fou. Votre empereur est devenu fou. Vous croyez que je vais accepter ça ?
Votre Majesté est libre d'agir comme elle le souhaite. Mais si la France refusait de se soumettre aux conditions que nous lui proposons, l'Autriche, hélas, se verrait dans la douloureuse obligation de déclarer la guerre à la France.
L'Autriche me déclarait la guerre à moi. Mais cela ne se peut pas, monsieur l'ambassadeur. Vous oubliez qui j'ai épousé. Venez donc que je vous montre quelque chose. Il m'a suffi de 3 mois pour reconstituer la Grande Armée. Voici un de mes nouveaux régiments.
Ce sont des enfants, sire.
Vous auriez tort de les mépriser, monsieur, car ces jeunes gens s'appellent des Marie-Louise. Ils portent le nom de ma femme, parce que l'impératrice est le plus sûr garant de la paix. Grâce à elle, du sang autrichien coule dans les veines de mon fils, et si votre empereur me déclare la guerre, il la fera du même coup à sa propre fille et à son petit-fils.
L'empereur d'Autriche déclara malgré tout la guerre à Napoléon, c'est-à-dire à son gendre en 1813. C'est quand même cornélien pour Marie-Louise, Geneviève Chastenay. Elle doit choisir entre son père et son mari.
Oui, mais elle a choisi Napoléon contre son père. Bien que tous les engagements pris par Napoléon au mariage de restaurer l'Autriche n'ont pas été tenus. Alors c'est quand même une forme d'héroïsme extraordinaire. Mmh. Elle est française, bien plus française que certains Français qui ont quitté le bateau quand il faisait haut.
Mais tellement française d'ailleurs que Napoléon, quand il part justement faire la guerre à l'Autriche, à la Russie, Napoléon fait d'elle la régente. C'est-à-dire qu'en fait, en son absence, c'est en principe elle qui doit gouverner la France.
Oui, et elle le fait avec beaucoup de conscience. Par exemple, elle fait un discours au Sénat pour raviver les ardeurs. Et ça finit comme ça, l'empereur, la patrie et l'honneur vous appellent. Donc, remuez-vous au lieu de discuter.
Mais alors, est-ce qu'elle avait le goût de la politique ?
Mais elle l'a pris. Parce qu'elle a, par exemple, au moment des retours des blessés, elle a demandé qu'on mette tous les châteaux, tout le mobilier des châteaux aux environs de Paris pour les blessés, de faire revenir les lits, les matelas, parce qu'ils arrivaient sur de la paille pourrie dans des chars à bancs. Tout ça n'était pas prévu. Et elle a très bien prévu et géré le retour de ces blessés.
Mais elle était mal entourée, dites-vous. Parce que quand elle est régente, en réalité, alors, elle était... il y a à côté d'elle quand même...
Alors, il y a Cambacérès qui a peur de perdre sa fortune, Lebrun qui est nul, Joseph, le frère que Napoléon disait, c'est une femme entre ses frères, ou c'est un pygmée qui veut se grandir. Mmh. Alors déjà trois. Ensuite, il y a Talleyrand qui sait toujours de quel côté sa tartine est beurrée, donc il filera chez les Bourbons. Et Savary, qui était un crétin fini, puisqu'il a été emprisonné par le général Mallet, qui avait dit que Napoléon était mort et qu'il fallait faire un gouvernement provisoire. Mmh.
Bref, des gens prêts à trahir, alors qu'elle reste fidèle.
Mais reste fidèle.
Reste fidèle à son mari.
Et quand elle est partie, elle a dû quitter Paris, ça a été un déchirement pour elle.
Vous devez quitter impérativement Paris à l'instant.
Quoi ?
L'ennemi vient d'arriver aux portes de la ville. Tous nos ennemis, les Russes sont là, les Autrichiens, les Prussiens. Je vous en prie, prenez l'enfant et fuyez.
Fuir ? Si je fais cela, la population risque de croire que nous l'avons abandonné.
Madame, c'est un ordre de l'empereur, daté du 8 février 1814. Si l'ennemi était en marche sur Paris avec impossibilité pour nous de résister, et c'est exactement la situation, madame, alors, faites partir ma femme et mon fils. Rappelez-vous que je préférais savoir mon fils noyé dans la Seine plutôt qu'entre les mains des ennemis de la France. C'est l'écriture de Sa Majesté, vous la reconnaissez. Une voiture est en bas qui vous attend.
Bien, allez chercher le roi de Rome. Et apprêtez-le pour un voyage. Mais je tiens à vous dire, j'essaierai de rejoindre l'empereur où qu'il soit. Il ne supporterait pas d'être séparé trop longtemps de son fils.
Et elle va effectivement partir de Paris alors qu'elle comptait y rester. Pourquoi est-ce que Napoléon ne voulait pas que sa femme vienne le retrouver alors qu'il était à Fontainebleau, par exemple, Geneviève Chastenay ?
C'est très mystérieux parce que c'est complètement suicidaire. Et elle est partie des Tuileries, la mort dans l'âme et les larmes aux yeux. Et alors surtout, quand elle est allée à Blois, elle s'est fait rançonner de tous les bijoux par un complice de Talleyrand.
Alors ce qui est tragique, c'est que Napoléon abdique, il est envoyé à l'île d'Elbe. Mmh. Elle-même est convaincue par son père, l'empereur d'Autriche, qui lui dit « Mais viens à Vienne avec ton fils ». Et c'est effectivement là qu'elle va se retrouver, sans plus jamais revoir d'ailleurs... Napoléon, qu'elle pensait rejoindre à l'île d'Elbe, c'est lui-même, d'ailleurs je crois qu'il ne le souhaitait pas, il a préféré faire venir sa maîtresse, son autre maîtresse, Marie Walewska, et alors elle va tomber dans les bras de celui qui était chargé par le père de Marie-Louise, qui était chargé de surveiller sa fille, qui était le comte Neipperg, qu'elle va finalement épouser après la mort de Napoléon en 1821. C'est assez pathétique la fin de la vie, et notamment la mort, par exemple, du fils qu'elle a eu avec Napoléon, l'aiglon, qui meurt en 1832. On a souvent dit qu'elle l'avait abandonné, Geneviève Chastenay.
Écoutez, c'est absolument faux, parce que j'ai vu toutes les lettres que quand Marie-Louise était à Parme, qu'elle écrivait à Dietrich Stein sur la façon d'éduquer son enfant, de ne jamais de lui parler des batailles de Napoléon d'une façon tout à fait positive, mais lui montrer que son ambition l'a conduit, l'a conduit à l'exil. Et Neipperg aussi lui a également donné les mémoires de Montholon et les mémoires de Lascaz. Et il les a lus aussi avec cet enfant. Donc, si vous voulez, rien n'a été occulté de la personnalité de Napoléon.
Sauf qu'elle vivait loin de lui parce qu'elle était duchesse de Parme, était devenue après la guerre contre la France. Duchesse de Parme, et elle mourra assez âgée, enfin pour cette époque, en 1847, à 56 ans. Il faut rappeler quand même que sur ces 56 ans, elle n'a passé que 4 ans, et encore le voyait-elle très peu, avec Napoléon. Et elle était enterrée quand même à Vienne, dans la crypte des Capucins, où se trouvent tous les Habsbourg. C'est assez étonnant, je crois que vous y êtes allée, Geneviève Chastenay.
Il y avait des violettes. Il y a toujours des violettes sur le tombeau de Marie-Louise. Je suis allée plusieurs fois à la crypte des Capucins et c'est quand même très émouvant. Comme à Parme, tous les taxis, les cars, les monuments ont des portraits de Marie-Antoinette. Quand je suis allée à Parme en 1984...
De Marie-Louise, vous
voulez dire. De Marie-Louise, oui. Je vais dire. C'est très touchant. Et Parme, à ce moment-là, a été tenue par les communistes.
Ah oui.
Oui, c'est quand même une...
Pourtant, elle n'a pas laissé un très bon souvenir aux Français. On dit qu'elle a abandonné Napoléon, ce qui était faux.
Oui, mais ça, c'est Castelot et compagnie qui racontent tout ça.
André Castelot.
Je ne suis pas du tout d'accord avec lui. D'ailleurs, oui. je me suis disputée...
Vous êtes plutôt du côté autrichien.
Oui, je me suis disputée avec lui.
Merci en tout cas Geneviève Chastenay. Je rappelle donc que l'on vient de rééditer votre biographie de Marie-Louise. Marie-Louise, l'otage de Napoléon, qui vient d'être rééditée chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Napoléon d'Yves Simonneau avec Christian Clavier dans le rôle de Napoléon et l'actrice allemande Mavi Hörbiger dans celui de Marie-Louise, un film disponible en DVD chez France 2. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Antoine Viossa et Julien Jabassu, documentation Claire Tesser, Camille Pouc-Gélaguier et Mathieu Ménossi, une réalisation de Philippe Rouy.